Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 22 mars dernier, le groupe de rap PNL diffusait sur sa chaîne YouTube le clip ODD, tourné en partie au sommet de la Tour Eiffel. En 48 heures, le clip accumulait plus de 12 millions de vues, battait le record du son le plus streamé sur Deezer et s'imposait comme le premier morceau de rap français, le premier à atteindre le top 30 mondial sur la plateforme Spotify en 24 heures avec 19 millions d'écoutes cumulées. PNL en profitait pour annoncer à la fin de son clip la sortie du nouvel album « Deux frères » pour le 5 avril. Le 8, trois jours après la sortie de l'album en question, Deux frères battait déjà tous les records avec 75 000 exemplaires vendus et devenait disque d'or. Deux jours plus tard, il était disque de platine avec plus de 100 000 ventes. Vendredi dernier, 12 avril, on comptait 113 214 ventes, dont plus de 62 000 en physique et plus de 40 000 en streaming, ce qui fait que Deux frères réalise la meilleure vente du rap français depuis la prise en compte du streaming. Entre 2015 et 2019, en seulement trois albums, Le Monde Chico, Dans la Légende en 2007 et donc celui-ci, Deux frères, Tariq et Nabil Andrieux, ou Ademo et Nos, comme ils se font appeler, s'imposent comme le groupe de rap français numéro 1, non seulement en France, mais dans le monde. À quoi correspond ce phénomène inédit qui surgit ainsi entre la France de Nuit Debout en 2016 et celle des attentats? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Benjamin Veil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous tenez un blog sur Mediapart, vous avez publié dans Libération du 3 avril un article intitulé « Le phénomène PNL ».
Alors c'est Michel Vampelli qui a en fait relayé mon article de Mediapart sur Libération.
C'était le blog de Mediapart, mais ça a été republié par Libération.
Exactement.
Et vous préparez un essai qui sortira à la rentrée, qui s'appelle « Au Maïc citoyen » aux éditions DAG Management, c'est ça?
Exactement.
Tariq Chakor, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'université Savoie-Mont-Blanc et vous avez écrit avec Hugo Gaillard, qui est doctorant en sciences de gestion au Mans, un article intitulé « L'objectif de PNL est de confirmer que PNL est toujours PNL » sur Slate, le 3 avril dernier aussi. Et enfin, Mathieu Maroudin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé des opérations Nouveau Public à France Culture et vous êtes aussi musicien. Vous êtes beatmaker sous le nom de...
Amatheus.
De Amatheus. Et vous allez nous expliquer aussi ce que c'est qu'un beatmaker exactement, parce que c'est important dans l'histoire de PNL.
Tout à fait.
Alors d'abord, je vais vous demander à chacun, on va commencer par un petit tour de table. En gros, qu'est-ce que vous pensiez de ce groupe et comment vous expliquez l'ampleur du phénomène? Parce que c'est pas seulement un phénomène français, c'est un phénomène mondial.
Alors oui, c'est vrai que c'est un phénomène. Je vais prendre la. Il paraît que c'est la galanterie, donc je vais prendre la parole. C'est vrai que c'est un phénomène aujourd'hui assez mondial, parce qu'en plus on a vu qu'en termes de streaming, ils avaient même dépassé au niveau mondial. Ils étaient premiers au niveau mondial. Alors après, qu'est-ce que PNL représente? Il y a quelque chose qui vient faire fracture quand même, même au sein du hip-hop, hein, on voit bien que, enfin, au sein du rap français, on voit bien qu'il y a les pros et les anti-PNL. Il y a quelque chose qui est très marqué sur est-ce que c'est du rap ou pas, d'ailleurs aussi, hein, ça vient questionner aussi jusqu'à l'ADN du rap. Et à ce titre-là, PNL donc fait parler, fait penser et clive énormément. Et donc, c'est ce qui m'a amené à développer l'idée que c'est un phénomène au sens philosophique du terme et qu'à ce titre-là, il fallait pouvoir le prendre en compte.
Oui, dans votre article, vous y allez fort. Hein. Vous en appelez à Kant, à Merleau-Ponty, à Magritte, à Saussure.
J'ai envie de dire, c'est les gens qui, enfin, notamment, je pense, Kant, c'est Kant qui a développé la notion de phénomène en tant qu'opposition, justement, au noumen, c'est-à-dire la manière dont les choses nous apparaissent et pas telles qu'elles sont. Phénomène, enfin, PNL nous apparaît, donc c'est un phénomène. Et Merleau-Ponty est quand même un des grands phénoménologues du XXe siècle, c'est-à-dire qu'il a travaillé justement sur les phénomènes et notamment sur les phénomènes artistiques. C'est pas anodin.
D'accord. Tariq Chakor.
PNL, c'est, comme l'a très bien dit Benjamin, c'est un groupe qui dénote totalement dans le contexte du rap, dans le milieu du rap, notamment dans un contexte où on est au temps de l'hypermédiatisation, de la course à l'hypermédiatisation, d'essayer d'être présent sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux, dans tous les médias. PNL dénote totalement par rapport à ça. Et donc, rien que pour ça, ça mérite que l'on s'y attarde. Mmh. Ensuite, ils ont totalement remis en question certaines choses qui semblaient acquises, des techniques de communication, de marketing, on va en parler, je pense, mais et donc ce groupe ne serait-ce que pour ces éléments-là mérite qu'on s'y attarde et en effet ce groupe clive totalement et ne laisse absolument pas indifférent.
Mathieu Maroudin.
Moi, je pense que PNL, justement, a réussi le pari de décloisonner plutôt que de cliver, dans le sens où on dit que effectivement dans le rap, il y a ceux qui sont anti-PNL et ceux qui sont pour PNL. Moi, j'arrive à me situer un peu au milieu, justement, parce qu'en fait, le dernier album a réussi quand même à me réconcilier avec eux, dans le sens où je pense que mon oreille s'est habituée en fait de ce qu'on écoute dans les médias. On écoute énormément de rap, de la trap, ce qu'on appelle la trap, notamment donc la cloud trap, celle de PNL, et je sais pas, avec mélangé avec l'électronique, pour moi ça m'a j'ai vraiment réussi à comprendre en fait ce que voulait PNL par ce dernier album.
Alors qu'avant vous étiez un peu plutôt moins. Contre.
J'étais pas contre, mais moi après je viens aussi de la musique faite avec des vrais instruments et c'est vrai que je viens plutôt aussi de la boom bap et j'étais un peu dans ce
clivage-là. Faut expliquer un peu ce que c'est parce que il y a un ensemble de gens dont moi d'ailleurs, ouais. Ça fait pas du tout ce que vous parlez.
Bah la boom bap c'était le rap, tout ce qu'on peut dire, le rap à l'ancienne un peu.
Avec un BPM plus marqué, plus lent.
Voilà, plus lent, on met le BPM, le battement par minute. Le battement par minute, généralement on le met à 95, 100 et quelques. Là, quand on fait de la trap, on le met à 133 direct, comme ça on a quelque chose qui va très vite. Et puis on met des triolets, on met des choses très simples en fait avec des nappes sur la cloud ou sur la trap. Dans tous les cas, dans la boom bap, il y avait quelque chose de plus subtil au niveau de la basse et le sampling était plus classique, on va dire. Maintenant, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Il y a beaucoup plus de travail avec l'électronique et ça, moi, j'adhère beaucoup. Et voilà, c'est le travail sur l'oreille. Et je pense que c'est ce qu'il y a aussi pour pas mal de gens. Je pense que ça a quand même un impact, le fait d'en écouter très souvent à la radio. Et que du coup, notre oreille s'habitue à ça. Je pense que c'est une des causes, on va dire, du succès. Et puis de l'imaginaire qu'ils ont créé, en fait. C'est un mythe, en fait. Ils ont créé un mythe. C'est-à-dire que c'est un imaginaire. Pour moi, la musique, le mainstream dans le mainstream, la musique ne sert à rien sans la vidéo. Parce que elle ne sert à rien si la musique n'a pas d'imaginaire collectif. C'est triste, mais c'est comme ça. Et PNL, ils sont les champions pour ça, quoi.
Alors, on va, avant d'écouter et avant de développer, on va un peu préciser les choses qui sont d'abord. Tariq et Nabil Andrieux, donc le premier est né en 86, le second en 89. Ils ont grandi tous les deux au quartier des Tarterets à Corbeil-Essonne, d'un père René Andrieux, pied noir d'origine corse, ancien braqueur de banque ayant purgé 8 ans à la maison d'arrêt de Poissy, qui était une figure importante du quartier, et aussi qui est une figure de leur mythologie, parce qu'ils utilisent beaucoup cet aspect des choses. D'autant que Andrieux a purgé, plusieurs années au Baumette et à Fresnes. Et en 95, il était président de l'association des jeunes des Tarterets, quand il a été présenté à Serge Dassault, avec qui il a développé une relation de clientélisme électoral, pour être clair.
Oui, clairement.
Il a aidé Dassault à se faire élire à la municipalité, avant de se faire prendre avec 3,5 kg de cannabis, si bien que Serge Dassault l'a fait exfiltrer en Corrèze par l'un de ses hommes, qui était ancien préfet et chef adjoint du cabinet de Jacques Chirac, donc il y avait beaucoup de liens avec la Corrèze. Et c'est là, en Corrèze, que les deux frères Andrieux ont grandi pour l'essentiel, et non pas au Tarteret, donc pendant un certain temps.
Pendant 4-5 ans.
Pendant 4-5 ans.
La fin de leur adolescence.
La fin de leur adolescence. Et puis, Andrieux est resté un certain temps en Corrèze. Il a émargé où Rémy était totalement marginalisé. Et il est revenu à Corbeil-Essonne pour régler certains comptes. Et ça a fini très mal, puisque ça a été la chute de Serge Dassault. Mais entre-temps, il y a eu quand même des fusillades. Enfin, ça a été très spectaculaire. Et c'est sur cette, sur cet arrière-plan politico-mafieux et familial local que les frères Andrieux ont grandi et qu'ils ont aussi bâti une bonne part de leur mythologie. Eux-mêmes disent, enfin ne se cachent pas d'avoir fait du trafic, puisque l'aîné a fait plusieurs années de prison, je crois 3 ans.
Des mots, ouais.
Pour trafic. Et c'est à la sortie de prison qu'ils sont décidés de se mettre ensemble pour créer PNL. Alors que jusque-là, ils essayaient de faire carrière chacun de leur côté, ça marchait pas tellement.
Ils étaient quand même encore assez jeunes, hein, parce qu'ils sont pas très vieux encore aujourd'hui.
Ils ont surtout grandi avec leur père, et c'est un des points, et on sait pas où est la mère dans l'histoire, hein. C'est la mère qui est algérienne. Eux se disent musulmans. C'est un point de détail, mais c'est pas nécessairement un point de détail. C'est surtout le père qui incarne comme ça une figure mythologique dans leur histoire.
Le père est très très fort, mais il y a quand même un moment où dans Deux Frères, ils évoquent le fait d'avoir été élevés par la plus forte des femmes. On se demande d'ailleurs si c'est la mère ou la grand-mère, parce qu'en effet, dans la tradition d'Afrique du Nord, souvent quand la mère considérée comme défaillante, ça peut être la grand-mère qui prend le relais. Et notamment à la fin de Deux Frères, quand La Misère est si belle, il dédicace un peu tout le monde. Et à un moment, il dédicace Habiba, dont on ne sait pas justement si c'est la grand-mère, la mère ou l'une des femmes des Deux Frères. Donc en effet, la place des femmes est quand même questionnée.
La place des femmes est questionnée. On sait très peu de choses sur leur vie, puisqu'ils ne donnent pratiquement aucune interview.
Pas pratiquement, ils n'en donnent aucune.
Ils en ont donné une, ils ont rencontré une journaliste américaine.
Sauf qu'ils n'ont pas répondu. La journaliste s'est déplacée, mais aucune réponse réelle. Enfin, on ne peut pas parler d'interview.
Voilà, c'est ça.
C'est plus un portrait. Hein.
C'est plus un portrait. Et c'est ce qui ne les a pas empêchés de faire la couverture de ce magazine prestigieux.
Voilà. Et donc, on sait très peu de choses d'eux. On va écouter quand même.
Bas les couilles de l'Himalaya, bas les couilles, je vise plus sommet. Mon cœur fait oulalala, crime passionnel que je commets. Sur ton cœur, je fais trou de poulette, je fais tache de sang sur le pull. Je désire nullement vous connaître, ni toi ni ces fils de pute. Je me tire d'ici si je m'écoute, sans corse mélanger bougnoul. La lune, j'aime plus, je vous la laisse. Je m'endors sous doré, sous nio. Je suis ni de chez moi, ni de chez vous. Elle veut la bise avec, je la baise. Je connais la route, je connais l'adresse. Je t'encule sur le continent d'Hadès. Sale comme ta neige, neige courte. Forte comme la peur, j'écoute. Je tire la gueule, je n'écoute que mon âme seule, mec tout. Je vis dans un rêve érotique où je parle peu mais je caresse le monde. Je meurs dans un cauchemar exotique où la terre ressemble à ma tombe. Pourquoi toi tu parles en ego? Si ça se tue, ouais, dis-moi qui signe. Pas d'honneur, toi tu sens d'ici. Wallah, baba, m'a dit mon fils, non, non. Toi pas calculer ses pétales. Moi j'ai donné pendant longtemps, puis j'ai perdu mes pétales. ODD, je la passe la détail, la pécoula.
Voilà, c'est donc ODD, au détail je suppose. C'est une référence à la bande de Cam, qui est très présente aussi dans leurs chansons. Donc on voit le mélange de cette espèce de mélange de réalisme et de désenchantement, de mélancolie agressive. Qui est effectivement relativement unique dans cet univers.
Tout à fait. Ce que je disais dans mon article avec Hugo Gaillard, qui n'est pas d'abord sorti sur Slate, mais d'abord sur le site The Conversation, où on parlait du coût stratégique de PNL. Il y a quelque chose qui est assumé, qui est rarement assumé dans le rap, et que PNL n'hésite pas à assumer, vraiment, c'est un peu cette vision romantique de la galère. Mmh. C'est un peu cette vision qui prouve une certaine faiblesse, où ils admettent une certaine faiblesse. Dans le milieu un peu viril du rap, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Et donc, c'est ce qui fait également l'une de leurs spécificités avec plus globalement un mix entre une mélancolie, mais également c'est vraiment un monde très très particulier. Il y a un mix entre la mélancolie, entre le fait d'être très éloigné, très au-dessus de tout ce qui se passe, mais également très proche du terrain et très proche de leurs auditeurs et de leurs fans via les réseaux sociaux. C'est un mix qui est assez inédit et qui fait toute leur particularité.
Mathieu Maroudin.
Dans ce qui marche le plus dans le hip-hop, j'ai l'impression, enfin je crois, c'est globalement les sons qui, ce qu'on dit, qui turn up, quoi. C'est-à-dire les sons qui tout de suite sont beaucoup plus peps, qui sont beaucoup moins mélancoliques, etc. Après, je suis pas tout à fait d'accord. Non. Avec ce que vous dites,
parce avec que Tariq Shakur,
voilà, parce que la mélancolie, souvent, enfin, moi j'ai l'impression que le hip-hop, j'ai été bercé que par ça, quoi. La mélancolie, la tristesse, la difficulté de vivre, le spleen. Même maintenant, on a des gars comme Vald qui font des sons. Il y a un son qui s'appelle Kid Cudi où il dit je vais me suicider comme Kid Cudi pendant. Et même aux États-Unis, il y a ça. Bon, en fait, c'est vrai que eux, ce qu'ils ont réussi à faire, du coup, c'est de s'installer dans les charts en top avec cette mélancolie-là. Parce que justement, c'est plutôt les sons qui turn up, qui marchent bien, là on fait la fête, etc.
Marchent bien pendant les tournées de concerts, les salles de concert.
Exactement.
Où les sons sont pensés, quand on parle turn up, on a souvent en référence ce public qui, dans la fosse, fait
un gros pogo
où tout le monde se saute dessus. Et généralement, ça conditionne un peu certains rappeurs qui produisent, qui pensent à des sons pour leur tournée. Ouais. Alors qu'à l'inverse, PNL, on n'est pas vraiment sur ce champ-là.
Il faut que ça turn up. Voilà, c'est ça le truc. Et c'est vrai que PNL, c'est pas tout à fait ça, même s'ils ont. Ils sont un peu décalés à des moments parce qu'ils ont fait des sons, je pense au son Bene qui est un reggaeton, du coup très festif aussi, qui peut passer en boîte de nuit, etc. Donc voilà, c'est vraiment c'est impressionnant, quoi,
ce mix improbable,
ouais,
en fait,
hein. Voilà.
Vraiment, c'est même quand on analyse leur texte, quand on voit le décalage, on a entendu l'extrait, on voit des paroles très crues, une manière de le dire assez différente, c'est pas quelque chose de violent, c'est assez doux de la manière dont c'est dit, des musiques qui peuvent être relativement planantes, voire parfois, après, il peut y avoir des exceptions, comme Bene ou d'autres, où c'est beaucoup plus... Mais ce que je disais sur l'introspection, sur le spleen, évidemment, c'est présent dans le rap, mais le fait de combiner cela avec des choses qui n'ont... Généralement, on a tendance à catégoriser les rappeurs. Le rappeur conscient, comment on peut dire ça, un peu bling-bling, etc., etc. PNL, on n'arrive pas vraiment à les rentrer dans des cases.
Oui, et donc c'est ça, vraiment cette... En fait, PNL, ils explosent un peu les catégories, et c'est vrai qu'ils vont justement... C'est ça qui est parfois un peu particulier, c'est que je vois par exemple sur le titre Hasta la Vista, qui est quand même avec une grosse zumba derrière, ou qui peut être très festif, finalement le lyrics le plus important du titre, c'est « Je suis ravi que ma haine vous plaise », qui résume assez bien, je trouve, PNL, finalement, parce qu'on voit bien qu'il y a cette nostalgie, cette mélancolie, j'entends bien la dimension introspective déjà dès le départ, j'ai envie de dire du rap, même s'il y avait quand même quelque chose de plus rageux, au sens d'une colère qui donne envie d'avancer aussi. Là, on sent quelque chose du désespoir quand même, qui est quand même plus fort et qui est assez propre à cette génération. PNL sont pas les seuls à être dans quelque chose de très sombre, de très ténébreux, d'ailleurs, ils le disent. Et en même temps, il y a toujours une note d'espoir, en fait,
à travers ce qu'ils racontent. Est-ce que c'est vraiment une question de génération ? Parce qu'ils disent, à un moment donné, dans ODD, je me promène dans les beaux quartiers avec le seum
qui fait peur aux riches.
Le seum, c'est le poison, c'est le venin, c'est vraiment le spleen.
C'est la dépression.
Ça. C'est la dépression et le spleen. Donc on est vraiment dans quelque chose, dans une tradition d'une forme de haine romantique qui n'est pas exactement neuve.
Non, et qui en même temps en plus correspond aussi à l'actualité pour le coup, parce que finalement on voit que les quartiers riches sont quand même occupés tous les samedis.
Si vous commencez à penser que PNL sont des gilets jaunes, là je veux bien.
Non, je dirais pas que PNL sont des gilets jaunes, mais qu'en attendant il y a quand même quelque chose qui se fait aussi autour de ça, c'est-à-dire qu'ils sont très proches de l'actualité, l'air de rien, et ils l'écoutent, ils l'observent, et précisément en renvoyant que finalement leur somme, leur dépression fait peur aux riches, et en même temps c'est aussi ce qui plaît finalement aux enfants de riches, parce qu'ils sont quand même, ils écoutent beaucoup PNL, il y a cette idée aussi quelque part de venir montrer, j'ai envie de dire, la réalité aussi de ce qu'ils vivent là où on voudrait ne pas les voir, en fait.
Typiquement le défilé sur les Champs-Élysées.
Exactement.
Je pense que ce
défilé sur les Champs-Élysées pour la sortie de leur album.
Pour la sortie de leur album, c'était un défilé surprise, il y avait une rumeur comme quoi un concert aurait lieu à la Tour Eiffel, finalement ça ne s'est pas fait, même le compte officiel Twitter de la Tour Eiffel, si je ne me trompe pas, ou de la ville de Paris, a bien indiqué qu'il n'y aurait pas de concert. Mais l'événement, le fait d'avoir loué un bus à Impérial aux couleurs de PNL et pour défiler avec leur famille, comme ils disent QLF, avec leurs frères, pour défiler sur les Champs-Élysées à la manière de champions du monde qui reviendraient d'une coupe victorieuse. Cet événement-là, je pense qu'il caractérise bien leur monde, c'est-à-dire on est là où on ne veut pas forcément nous voir, on est là toujours avec nos proches et on est sur la plus belle avenue du monde. Mm-hmm. C'est assez. Mm-hmm. Je pense que cet événement, il a été très caractéristique de ce que PNL veut dégager, mm-hmm. de ce qu'ils veulent montrer et de ce qu'ils montrent effectivement. Mm-hmm.
Oui, enfin, on va reparler de l'aspect politique, parce que moi je suis pas convaincu qu'il soit dans l'air du temps, c'est une chose, et l'air du temps est effectivement une certaine expression d'une certaine haine et d'une certaine noirceur, qu'il soit dans la politique, j'ai des doutes moi personnellement, mais enfin on va peut-être revenir dessus tout à l'heure. Avant je voudrais dire deux mots, je voudrais qu'on dise deux mots sur l'aspect strictement technique, musical, l'utilisation d'autotune qui est très importante dans ce qu'ils font.
Ouais, c'est trop bien l'autotune.
C'est pas l'avis de tous les auditeurs, de tous les fans d'or.
Bah moi je disais ça avant justement, j'aimais pas l'autotune et puis en fait j'ai découvert à la base il y avait aussi avant PNL, il y a des en fait la cloud trap, elle vient d'un petit suédois blanc vraiment pas du tout ghetto ou quoi que ce soit qui je crois s'est ghettoisé un petit peu en prenant de la codéine ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est un gars qui s'appelle Young Lin, mm-hmm. suédois. Et quand on écoute ce qu'il a fait en 2012, mm-hmm. c'est du PNL quoi. En anglais avec un accent, mais c'est ça en fait. C'est la nappe. C'est ce qu'on aime. C'est ce qui nous fait voyager. C'est ce qui nous apporte de l'image en fait. Moi, je sais qu'en tant que beatmaker, j'aime bien produire de la musique. Bon, des fois, je fais un son, je le fais en 10 minutes en termes d'arrangement, parce que j'ai des codes et je les connais, et donc du coup, je les applique et voilà. Mais parfois, et sur les prods que je préfère, en tout cas, c'est des prods où j'essaie d'imaginer un univers graphique, en fait. Et PNL, ils le font. Alors, ils reviennent au concret que la famille en faisant des clips ultra ghetto, etc. façon Courtragemé, vraiment cool. Et après, ils vont aller... voilà, c'est ça. Ils vont aller dans des pays et ils vont nous faire voyager. Et même sur les réseaux, c'est ce que disent les gens. C'est... Oh, au bout du troisième son, j'ai voyagé comme jamais. Je peux pas m'arrêter, je peux pas continuer. Là, je suis vraiment trop loin, etc. Donc ça, c'est marrant en fait de réussir à créer ça.
L'extrême local et l'extrême lointain en même temps.
Exactement. Et ça.
Ils arrivent à réunir les extrêmes en fait là-dessus. Enfin, ils arrivent à pouvoir justement à la fois cliver et réunir. Et c'est ça qui est quelque part un peu paradoxal et qui fait que ils font autant parler, la preuve on en parle ici, hein. C'est quand même pas anodin, finalement. Ils ont réussi à faire en sorte que aujourd'hui, qu'on les qualifie de rap ou pas, bah, comme ils se qualifient de rap, bah, finalement le rap est partout, et aujourd'hui il a envahi les ondes de partout, et même les Champs-Élysées. Ouais.
Et c'est même du reggaeton des fois le rap, et c'est même d'autres styles totalement différents du chant. Il y a un gars aussi qui s'appelle Hyacinthe, qui fait une sorte de rap un peu comme ça, où il se plaint en vocodeur comme ça, sur sa vie, sur la difficulté de la vie, de l'amour. Des gars comme Columbine aussi, qui sont un peu là-dessus, qui d'ailleurs, très marrant, ont décalé leur
semaine
de la sortie parce qu'ils sortaient au même temps que PNL.
Oui. Et quand tout le monde a fait ça, c'est quand ça s'est su que PNL sortait son album,
laisser place au roi.
Voilà, c'est ça.
Mais sur la question de la mélancolie, il y a quand même aussi une vraie note d'espoir, l'air de rien en fait, dans les albums de PNL, et surtout dans ce dernier album en fait. Déjà voilà, comment finit ODD quand il dit viens mon frère on se barre avant qu'on se perde. Déjà je trouve que c'est assez fort, avec l'idée de finalement c'est pas la notoriété qui compte mais d'abord l'amour fraternel, et qu'il y a quelque chose d'assez positif finalement là-dedans aussi. Et dans La misère est si belle qui conclut justement l'album, on voit bien que on est beaucoup plus sur quelque chose de l'ordre de l'envie d'être et de l'envie de pouvoir continuer d'avancer et de pouvoir s'épanouir, chose qu'ils n'ont pas vraiment connue. Et d'ailleurs ils reviennent pas mal sur leur éducation à la cagoule, comme ils disent, qui a pas été une éducation si simple, où ils se disent quand même niqués pour la vie à plusieurs endroits, et que justement ils aimeraient en sortir de ça. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est peu dit par rapport à PNL qu'il y a quand même vraiment une petite note d'espoir qui est pas facile à trouver.
On va revenir là-dessus tout à l'heure parce que ça c'est très on peut interpréter les choses de façon très différente, il me semble là-dessus. Mais d'abord je voudrais revenir sur l'absence de communication, sur l'atmosphère de presque de clandestinité qui entoure. C'est très étrange parce qu'on sait, tout le monde sait à peu près où ils vivent. Enfin, ils vivent toujours au Tarteret, pour autant qu'on le sache, en tout cas. Mais en même temps, ils ne sont pas approchables, en tout cas pas par les médias, pas par la presse. Il y a une absence de communication, et dans l'article de Feder, la journaliste raconte que cette absence de communication génère un certain nombre de rumeurs autour d'eux. On dit qu'ils sont soutenus clandestinement par les pontes de l'industrie musicale, par exemple. On dit qu'ils ont, qu'en fait, leur production, la production de leur musique est financée par l'argent qu'ils ont gagné dans le trafic de drogue.
Ils renouent un peu avec la culture vandale, hein, en fait. La culture vandale du graffiti, qui était dans l'occulte.
Enfin, oui, c'est ça.
Du rap, on passait les cassettes sous le manteau, hein.
Enfin, oui, mais c'est aussi une forme d'ambiguïté qui est installée à mi-chemin entre la clandestinité vraiment illégale, c'est-à-dire l'argent de la drogue, et le pouvoir social non dit, c'est-à-dire on ne sait pas où il se situe, c'est l'un ou l'autre.
Cette ambiguïté-là, elle est à la base de leur stratégie de communication.
Voilà.
Le fait de créer de la rareté, le fait d'être totalement absent des médias, ou plutôt de ne pas répondre aux circuits, ne pas intégrer les circuits médiatiques traditionnels, mais par contre de communiquer via les réseaux sociaux et de compter sur les réseaux sociaux comme leur seule vraie caisse de résonance, c'est-à-dire les retweets, les reposts, les partages, les likes, etc., qui vont faire leur communication. Et c'est, là aussi encore, c'est en lien avec leur QLF, que la famille, etc. Et c'est un peu, il y a un lien avec cela. Et le fait que nous n'avons pas besoin des médias traditionnels, nous n'avons pas besoin, nous comptons sur notre communauté, sur nos fans, etc., pour faire notre communication. Et aussi, ben, on voit le nombre de fantasmes autour des clips. Tout est interprété, voire surinterprété à l'extrême. J'avais vu sur les réseaux sociaux que quand ils lançaient le live ou pseudo live sur leur chaîne YouTube qui mettait un plan fixe sur la Terre, qui se rapprochait progressivement, on voyait progressivement des météorites passer ou des satellites, etc., avec des petits sons un peu furtifs, avec des petits éléments, tout était interprété. Certains avaient même dit peut-être qu'à 2h, je crois que c'était 2h43.
Il y a des numérologues qui sont dessus.
Voilà, 2h43, c'est l'heure de la pleine lune. Je crois qu'il y avait quelque chose de ce type. Peut-être c'est à ce moment-là, certains sont restés éveillés, m'ont dit, je rester éveillé pour rien, en fait.
C'est le grand retour des légendes urbaines.
Mais c'est un peu ça, c'est le fait, l'absence de communication crée cela. Et ils ont totalement compris ce...
Alors pour le coup, là, oui, on peut voir un parallèle avec les gilets jaunes, au moins dans cet aspect-là. C'est-à-dire que ce sont des phénomènes qui existent à travers les réseaux sociaux et à travers
qui gonflent avec les réseaux sociaux, voilà. C'est-à-dire avec l'effet des réseaux sociaux, c'est-à-dire qui refusent le système classique pour créer un autre système.
Mais avec des informations non vérifiables.
Et avec des informations dont on parle pour le coup, en effet, on n'a pas accès à la vérité.
Alors, Tariq Chakor, dans votre article sur le marketing de PNL, l'objectif de PNL est de confirmer que PNL est toujours PNL.
Ça, c'est la reformulation de Slate.
Mais ce n'est pas une mauvaise formulation, parce que c'est vraiment... Il y a une forme de tautologie, en quelque sorte. Vous faites ressortir trois aspects, la rareté, le luxe, c'est ce que vous appelez la disruption.
Ça, c'est un terme à la mode dans le management.
On va commencer par la rareté, parce que c'est quand même... vous dites que la rareté d'un bien suscite un désir plus grand, ça bien sûr. La valeur est perçue comme supérieure, il y a une capacité à susciter de la notoriété de par le fait d'être rare, et que la rareté est une forme de stratégie autoréalisatrice, parce qu'elle structure le manque, le besoin, qu'elle aiguise le manque. Et moi, j'ai pensé, en lisant cet aspect-là, j'ai pensé à la dépendance de la drogue, en réalité.
On peut voir ça. Après, ça, c'était sans avoir pensé à ça. On pensait avec mon co-auteur, avec Hugo Gaillard, on pensait à cette question de la rareté qui crée le besoin, celle qui crée l'envie, et donc là, parfois la surinterprétation. Mais ça, c'est un principe aussi vieux que le monde, j'allais dire, en économie, tout ce qui est rare et cher. Et notamment, encore une fois, dans un contexte, il faut vraiment contextualiser cela. Aujourd'hui, on a des dans le rap, notamment le rap français, on a des projets qui sont très souvent, très rapidement obsolètes. Une sortie d'album, généralement, maintenant, maintenant, le rythme, c'est quasiment un album, pour qu'un album disparaisse, on va dire, de la scène médiatique, ou, c'est peut-être, ouais, 2-3 semaines. Et quasiment chaque artiste refait un album quasiment tous les 6 mois, 1 an. Mmh. Après, il y a certains extrêmes, comme Jul à Marseille, ça c'est le Marseille qui parle, qui va en sortir un projet tous les 4-6 mois, mais avec des projets très 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 larges, avec plusieurs titres. Mais généralement, on va dire, c'est tous les ans. Et eux, ils se démarquent de ça en créant la rareté, encore une fois. Donc,
en créant la rareté et la dépendance.
Et la dépendance, une certaine forme, bien sûr, une certaine forme de dépendance. Voilà. À l'ère de l'hypercommunication, où on est abreuvé, où on a sans cesse plein d'informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les stories, sur Snapchat, sur etc. Tout. Là, il n'y a quasiment pas ou peu de choses. Et chaque poste, chaque nouveau poste crée, peut-être pas une révolution, mais crée des centaines, des milliers de retweets ou de likes, etc. Mmh. Et c'est ce qui crée l'événement.
Mais c'est exactement ce que dit William Burroughs, par exemple, dans Le Festin Nu, quand il parle de la drogue. Il analyse exactement les choses de cette manière.
Ça colle bien à leur texte, alors.
Oui, tout à fait.
Il y a quelque chose d'assez addictif. En effet, mais j'ai envie de dire dans la musique et en général, mais aussi dans la consommation de communication qu'on a actuellement. Peace, donc PNL, qui veut dire Peace and Love, la quête de paix, hein, quand même, donc qui renvoie aussi à quelque chose d'un apaisement et d'un épanouissement. Et puis les Love, qui pour le coup sont l'argent et surtout l'argent du business, donc l'argent de la drogue.
En plus, moi, il y a une punchline que j'adore. C'est « je remplace centime par sentiment ». Du point de vue musical, comme je disais, que on habitue aussi un peu les oreilles. En fait, on habitue depuis toujours les oreilles à entendre, enfin, en tout cas depuis les années 2010, 2012, 13, 14, on habitue vraiment à la trappe. À la base, la trappe, c'était quand même quelque chose qui était très électronique. Et c'est marrant parce que moi, je me rappelle, je vais pas faire le précurseur ou quoi, hein, parce que je suis voilà, mais je me rappelle avant, j'écoutais de la trappe purement électronique, sans aucune parole, il n'y avait pas les textes avant, et moi j'adorais ça, et je me suis dit, ça c'est le futur, et là on voit que le futur, là ça va encore plus loin. Et ce que je voulais dire par rapport à la musique, c'est que, en fait, dans l'industrie, on remarque quand même que les bangers, en fait, c'est les rappeurs, les nouveaux rappeurs, ils font souvent un album, c'est très codé, parce qu'ils font un son ou deux ou trois un peu sur le spleen, un ou deux ou trois un peu club, un autre, on va dire, ouvert à France Inter, un autre, voilà. Donc, et en fait, c'est pour aller toucher des publics. Et là, on se rend compte quand même que globalement, c'est très cohérent PNL. En fait, c'est quand même très 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 cohérent. C'est de l'électronique, c'est du rap. Il y a de temps en temps un petit son un peu caliente, etc. Mais globalement, ça reste beaucoup plus cohérent que d'autres albums qu'on peut entendre. Et ça, c'est ce qui est. Enfin, en fait, c'est ce succès-là vis-à-vis de la musique. C'est dur à comprendre vis-à-vis de... Parce que, enfin, même au-delà de ça, il y a aussi, quand on parle des textes, par exemple, si on rentre dans les textes, ça ressemble à rien d'autre, en fait. Ils ont des techniques en matraquant des onomatopées ou des choses comme ça.
Oulala, oulala.
Oulala, oulala, ou béné, béné, enfin, voilà, bon. C'est un mot, hein, en soi, mais même Chang, dans le dernier album, ou... Et puis ils utilisent, en fait, je pense qu'il y a ça aussi, ils utilisent énormément de références que moi, j'affectionne beaucoup, Dragon Ball Z. Moi, j'ai à peu près j'ai le même âge que NOS, donc voilà.
Ceci explique en cela.
Voilà, donc Dragon Ball Z, ils sont très dans la culture japonisante.
Manga,
ils ont fait un son qui s'appelle Blanca, donc qui est tiré d'un personnage de Street Fighter, qui est vraiment bien, pour le coup. Et voilà, enfin, musicalement, c'est incroyable.
Il y a autre aspect dans les textes qui est assez intéressant, justement, alors qui à la fois renvoie au voyage, là je vois sur le dernier, c'est Kutai et Ubud, où quand on connaît Bali, pour le coup, c'est pas du tout anodin, en fait, la manière dont ils en parlent. Parce que il y a quand même plein de références au singe, à la jungle, donc entendu comme la rue et le quartier.
Le zoo.
Alors, je vois, enfin, dans les années 90, on parlait de faire des dingueries. Avec PNL, maintenant, on parle de faire des singeries. On est passé du fou à l'animal. C'est pas anodin dans la représentation que ça vient impliquer. Et justement, que ça soit à Kuta ou à Ubud, c'est là où il y a le palais des singes. Donc, les singes sont sacrés aussi, oui. À Bali. Bali qui est le, en Indonésie, le seul pays qui, où il y a 90% d'hindouistes et 10% de musulmans, quand le reste de l'Indonésie c'est l'inverse. Donc c'est pas complètement anodin justement de leur part d'aller chercher du côté des hindous, et notamment du mythe du singe justement, c'est-à-dire de montrer comment finalement le singe n'est pas forcément celui qui fait des singeries au sens du passage, du clown, comme on peut l'entendre en Occident, mais qui est aussi le malin, celui qui se débrouille, le débrouillard, et qui vit dans la rue et qui est quelque part un peu sacré.
Mmh. Et ça fait également penser à deux épisodes, notamment leur clip d'A, qui réifie le singe, et la fameuse semaine Planet Rap, où donc émission diffusée sur Skyrock, qui est un peu la semaine courue par tous les rappeurs, parce qu'elle offre une exposition sans commune mesure, je pense, bon, même si c'est un peu moins le cas d'année en année avec les réseaux sociaux, mais ils ont accepté cette semaine Planet Rap, mais alors au lieu d'être présents dans les studios, ils ont envoyé un singe les représenter. Oui. Donc on retrouve un peu, ça fait également écho à ces deux.
Alors vous citez cet exemple, oui, dans votre article, dans le chapitre, non pas sur la rareté mais sur le luxe, oui, qui va avec la rareté, mais en même temps qui la contredit aussi, parce que dans votre article vous expliquez qu'il s'agit bien sûr de tenir le public en haleine et qu'il s'agit d'entretenir une atmosphère presque de c'est-à-dire le luxe ne se mélange pas avec la masque, oui, c'est-à-dire que
hors sol.
Voilà, le luxe est hors sol. Mmh. Donc on a à la fois, il s'agit à la fois de plaire au maximum, mais il s'agit quand même de garder son quant à soi, que la famille, c'est aussi, on ne se mélange pas.
On ne se mélange pas, les featurings ne se font qu'avec des personnes, des featurings, les duos ou trios, les morceaux partagés, on va dire, ne se font qu'avec des groupes ou de leur quartier ou de leur cité ou de leur quartier. Ils bossent qu'avec, que ce soit pour la production de clips, je crois que c'est Caméraméa et Mess qui s'occupent de leurs clips, ce sont des personnes des Tarteurs ou du moins de leur zone. Voilà. Et mais il y a quand même ce côté luxe.
Voilà, alors c'est ça. On passe du clan au luxe vraiment, c'est-à-dire l'inauguration de la boutique Suprême avec Chloé Sevigné et Rick Owens sur la musique de PNL. Il y a d'autres exemples.
Il y a eu un événement au Palais de Tokyo, il y a eu dans le dernier clip au DD, on voit de manière un peu furtive une pièce unique portée par NOS, faite par Off-White, qui est une marque hyper luxe, hyper rare, etc., qui joue beaucoup sur ce côté, donc sur ce côté luxe.
Et qui a fait des vestes spéciales pour eux.
Une édition unique, ou je sais pas si ça a été commercialisé, je sais que ça a été copié, mais comme souvent, mais je sais pas si ça a été commercialisé, mais on voit la fameuse croix, enfin les flèches qui s'entrecroisent, qui symbolisent la marque Off-White, et au centre de à l'intersection de la croix, on voit le symbole, le cœur, enfin que la famille, c'est un des symboles de PNL.
De PNL.
Ouais. De leur premier projet.
Qui était leur premier projet. Et c'est pour ça, Benjamin Vell, que je me permets de ne pas être tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez de fraternité, et parce que il me semble que on passe avec PNL, on passe directement du clan, du groupe local, de l'hyper localisé, mais vraiment du clan au luxe direct et à la masse. C'est le clan et le luxe alliés qui parlent à la masse. Moi, je vois pas de grande fraternité là. Hein. Je vois quelque chose de beaucoup plus.
Pourtant, la fraternité, elle est très présente. Ne serait-ce que deux frères. Enfin, voilà, on voit bien que entre eux, déjà, tout fonctionne à deux. L'un sans l'autre, en fait, c'est moi j'ai presque envie de dire que quand on écoute deux frères, on a presque l'impression que c'est des siamois.
Oui, mais ça c'est le clan.
Et on voit bien d'ailleurs deux trous dans une tête. Enfin voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du clan et de la fusion quasiment entre
tout à fait.
Eux. Mais voilà, qui vient donner aussi, j'ai envie de dire, le ton d'une forme de fraternité malgré tout, parce que c'est vrai que c'est pas forcément une fraternité, j'ai envie de dire, entendue très idéologique.
Mais c'est pas une fraternité au sens politique du terme. C'est une fraternité de sang
et de lieu. Pas que de sang, parce qu'elle est locale. C'est un droit du sol.
Non, c'est du sophisme pur.
Non, mais après, c'est du concept aussi, quoi. C'est-à-dire que dans le rap, depuis toujours, on met en avant la famille, on fait ça pour...
Tout à fait, oui.
On fait ça pour la famille,
pour les siens,
etc. Exactement. Donc ça reste aussi une filiation, en fait, toute simple, du rap à l'ancienne, moderne. Enfin, voilà, c'est la même chose. C'est du concept, parce que quand on les voit en concert, quand on regarde les images de concert, enfin, le public, c'est la famille. Donc là, c'est pas le clan rapproché, même si dans le business c'est le clan rapproché, et que d'ailleurs leur ingé son c'est NKF Track Bastards qui fait aussi des sons pour Orelsan, Damso, enfin d'autres rappeurs en fait connus. Donc c'est pas que des gens de la famille non plus en fait. Mais la famille c'est quelque chose qui rassemble autour de ce concept-là en fait, tout simplement.
La famiglia,
c'est la famille italienne. Quasiment au sens politique aussi, parce que finalement on est sur un modèle très familialiste en France, l'air de rien aussi dans la société, et précisément la famille, c'est quand même le microcosme sociétal depuis toujours. Donc la notion de famille, c'est la notion de qui sont ceux avec qui je vais pouvoir continuer de faire collectif quoi qu'il arrive.
Vous pourriez dire ça de la mafia aussi, si on va parler.
Les mafias sont des familles.
Oui, d'accord. Mais
elles se disent comme étant des familles.
Vous voyez une grande fraternité.
Et c'est une dimension politique. C'est pas forcément la politique telle qu'on la voudrait, mais en attendant, c'est politique.
Non, mais c'est une vraie question. Le troisième point de votre analyse de marketing, Tariq Shakor, c'est l'élément de disruption, ce que vous appelez la disruption. Donc, il faut innover dans la promo. Vous mentionnez notamment la manière dont ils ont fait une campagne d'affichage avec un. C'était pour quel album?
C'était pour la sortie du clip Béné.
Oui.
Sachant que, juste pour recontextualiser, il y a une sorte de saga des clips qui s'enchaînent avec des personnages auxquels les auditeurs peuvent s'identifier, les fans peuvent s'identifier, etc. Et donc, il y avait dans les rues de Paris, il y avait une campagne d'affichage qui avec la tête de Django Macha, si je me trompe pas, désolé si j'écorche son nom. Et donc, c'était le méchant de la saga, qui était collé sur tous les murs de Paris avec uniquement un numéro de téléphone et en tout petit sur le côté, mais vraiment à peine visible, le signe PNL, etc., mais avec un numéro de téléphone. Évidemment, cela a attisé la curiosité. De nombreuses personnes, de nombreux fans ou autres, ont appelé, et au bout d'une fois qu'on appelait, on entendait la musique de Béné Béné, donc qui annonçait le nouveau clip. Dans un premier temps, ça a un peu amusé, etc., en disant c'est bon, c'est Béné qui va sortir, etc. Sauf que, et ils se sont rendus compte quelques temps après, PNL avait développé ce qu'on appelle une stratégie de, excusez mon accent, de growth hacking. Donc c'est le fait de récupérer des numéros de téléphone ou des références pour en constituer une base de données.
Oui.
Et ils se sont appuyés sur cette base de données de personnes qui ont fait la démarche d'appeler donc ce numéro pour ensuite leur communiquer en priorité la date de leur tournée et les dates de concert à venir.
Voilà.
Donc ça c'est totalement novateur. Donc la disruption elle était vraiment à ce niveau-là, mais elle est à différents niveaux. C'est toujours le fait de redéfinir de nouvelles règles. Règles dans un milieu qui a tendance à toujours un peu reproduire les mêmes choses. Ah, ça a marché pour tel rappeur, je vais tenter la même chose, je vais tenter telle technique, je vais tenter telle scénographie. Ils inventent, ils innovent.
Est-ce que les gens qui avaient appelé, qui étaient donc, comme ça, ça a été rappelé,
on leur a envoyé un SMS.
On leur a envoyé un SMS.
On a augmenté le côté proximité. On a envoyé un SMS qui annonçait, nouvelle tournée, UO La Famille.
Ils avaient l'information en primeur.
En primeur.
Donc ils pouvaient acheter les places avant.
Je ne suis pas.
Parce que les préventes n'étaient pas ouvertes.
Les préventes n'étaient pas ouvertes.
Par contre, ils mettaient en avant l'expérience, quoi. C'est-à-dire que sur leur réseau, on recevait les SMS, on se dit, ah bah tiens, ils sont trop forts. Donc et là, ça dépasse la musique. Quoi.
Et toutes les personnes ayant reçu ce message l'ont posté sur les réseaux sociaux. On retrouve cette idée de réseaux sociaux comme quelque chose de
réseau. Il y a une vraie communauté autour d'eux, en fait. Il y a une vraie communauté active qui s'engage, qui se présente, qui va à tous les concerts, qui défend, qui promeut. Donc, et qui s'exprime aussi sur la place publique. Donc, si on entend justement juste le terme politique comme la capacité à s'exprimer et prendre place au sein du collectif et à faire collectif.
C'est une autre discussion parce que n'importe qui peut faire collectif à partir du moment où on est un groupe. C'est pas ça qui définit une politique, selon moi.
Ou
le politique. Mais en tout cas, ça définit certainement une appartenance. Il y a une forme de on appartient au groupe qui est proche de PNL, qui a les informations avant les autres et qui, à travers les réseaux sociaux, le fait savoir aussi.
Bien sûr,
parce que c'est très important. Le fait de faire savoir qu'on sait avant les autres ou qu'on voit le clip avant les autres fait partie de la stratégie marketing.
Ce que je disais un peu une petite partie de l'article, on disait au-delà d'écouter le nouveau PNL, on veut être parmi les premiers à avoir écouté PNL.
Voilà.
Et ça, c'est aussi, ça témoigne de leur succès et de leur côté carrément original et totalement novateur.
Ils ont constitué une sorte d'avant-garde. Hein.
Je suis à 91 milieu sous la mer. J'ai 1000 E sous la semaine. J'ai même soucis en fin de semaine. J'ai paire de couilles en cas de problème. Le monde, je
le vois travers, je le monte en l'air jusqu'à ce que ce putain de bonheur se monte. Y'a pas de cinéma, j'ai pas de temps. Pas de temps à donner ou à perdre. Baba m'a dit faut du tous. Faut scier le canon pour la guerre. Et la guerre, on l'a fait, on la refera. Pourquoi donc épiloguer? Pas de paix, pas de paix, pas de paix. Dans le contrat, la haine pourquoi piloter? Il s'agit de ne plus jouer au con. Dans le regard, pareil qu'on y voit une âme. Chez moi, on dit qu'au fond du trou. Jette un homme, il ressort avec une arme. Oh, pardonnez-moi. Poussez-vous là-bas, vite fait, deux secondes. Parce que sinon c'est ma bite dans votre cul qui vous flaire, qui vous sert de sonde. J'aime voir le ciel, j'aime ce silence, alors ferme ta gueule. J'perds pas le nord, non j'ai le courage qui emmerde ma peur. La feuille est si belle, plus j'écris, plus salie. Fleur de décibels, ma rage les contamine.
Un million par mois.
Et là j'ai le bon timing. Sous alcool, sous bœuf, j'ai tout fait consciemment. Le poids de mes erreurs, découpé constamment. Un regard, un mytho, un sourire. Et le cœur qui ne veut plus se nourrir. Des minutes, des années sur la montre. Naïveté ou trahison sur un mot.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Nathalie Lempereur, avec à la technique Jean-Guilain Meige et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière.
Et go la vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et go son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. J'sais pas ce qui se passe dans ma tête, parfois. J'voudrais sauver la terre, parfois. J'voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas calculer. J'aime pas tes rêves, cauchemar entassé. Le cœur qui brûle, sentiment glacé. On se connaît pas, j'aime pas ton passé. La mif va bien, pas s'embarrasser. Parfois peur de demain, peur de t'ôter la vie. Parce qu'on a grandi, et ma haine aussi. Chérie, t'as le bout qui bat. Un peu tendresse, t'y pas.